J'aimerais lire avec vous, vous pouvez imaginer qu'on est dans l'histoire. Je vais lire dans Actes 9, les versets 8 à 20. Je vous mets dans le contexte, Paul vient d'avoir la vision de la gloire de Dieu qui l'arrête, le Christ ressuscité qui lui dit: pourquoi est-ce que tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et puis, peut-être que vous vous rappelez plus ou moins, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout d'un coup, Paul ne voit plus rien. Paul ne voit plus rien. Il est amené à Damas. On le tient par la main. Lui qui était venu avec les pleins pouvoirs des autorités de Jérusalem pour emmener les chrétiens par la main, il est emmené lui. On lui tient la main à Damas, et puis il va rester 3 jours sans manger ni boire. Et voilà ce qui se passe. Donc je reviens juste là. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans boire et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Littéralement, un certain disciple, Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il répondit: me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit: vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant: Saul, mon frère, Saul, mon frère. Le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux, il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ananias, un certain disciple. On n'en parle jamais avant dans le livre des Actes. On n'en parle plus jamais après, ni dans le livre des Actes, ni dans les Épîtres, ni dans l'histoire de l'Église. Et pourtant, son obéissance à l'appel de Dieu, ce jour-là, a été déterminant pour l'histoire du monde entier. Il ne savait pas. Ananias, il n'a pas obéi parce qu'il savait ce que ça allait donner. Ananias, il a obéi parce qu'il a obéi. Il a obéi parce qu'il a entendu l'appel de Dieu, il a répondu. Ananias, un certain disciple. Ananias, un sacré disciple. Qui nous rappelle avec force, l'important n'est pas d'être connu. L'important, c'est d'être obéissant. Alors c'est vrai que je suis frappé, et je suis aussi mis au défi par l'attitude et le cœur d'Ananias. Une humilité docile quand il dit au Seigneur, me voici. Une confiance sincère, dévouée, mais pas aveugle, quand il pose des questions à Dieu. Une fraternité étonnante quand il s'adresse à Paul. Et puis un élan qui va plus loin que ce que Dieu lui a demandé. Et j'apprécie ces personnages dans la Bible dont on parle peu, mais qui sont là et qui font l'histoire. Ils changent le cours de l'histoire, pas parce qu'ils sont grands, pas parce qu'ils sont intelligents ou cultivés. Ils changent le cours de l'histoire parce que ils sont obéissants à la voix de Dieu. Notre importance dans l'histoire, qu'elle soit collective ou individuelle, notre importance dans l'histoire, elle ne se joue pas sur notre capacité, nos qualités ou nos forces. Mais elle se joue sur notre capacité à faire ce que Dieu nous demande, quand Dieu nous le demande. Parce que c'est Dieu qui change l'histoire de l'homme et l'histoire des hommes. Ce n'est pas nous. Mais Dieu aime changer le cours de l'histoire en travaillant avec nous, en venant nous chercher. Il aime faire ça en nous prenant avec. Comme il a pris Ananias ce jour-là, un jour en rien différent de tous les autres jours de sa vie jusque-là. Ananias, un certain disciple. Alors j'aime sa réponse à l'appel de Dieu, on va voir ça, j'aime sa question aussi à Dieu. Je suis touché par ses mots qu'il prononce à Paul, je suis touché par son attitude face à Paul. Alors je commence avec sa réponse. Dieu l'appelle et dit « Ananias, réponse, me voici Seigneur. » Pas Ou alors « Attends, j'arrive !» Ça c'est la réponse de mes ados quand je leur dis « Tu viens mettre la table ?»« Ouais, j'arrive !» Là, il y a un espace-temps qui ressemble des fois à l'éternité. « Attends, j'arrive !» Il n'est pas non plus, mais quoi encore? Non, me voici, Seigneur. Alors vous allez me dire, Gilles, c'était en vision. Il avait une vision, peut-être qu'on est plus obéissant qu'on tenait en vision. Et quand tu vois la question que Ananias Paul a dû, pose à Dieu juste après, tu dis, mais c'était une vision quand même, assez bien éveillé. Me voici, Seigneur. Alors je sais qu'on l'a déjà dit. Je sais que tu l'as déjà dit à Dieu. Que ce soit de manière individuelle ou collective, en tant qu'armée du cercle. Mais est-ce qu'on le dit encore? Et je me pose la question à moi en premier. Je sais qu'on l'a déjà dit, je sais que je l'ai déjà dit, mais est-ce que je le dis encore? Me voici, Seigneur. Je trouve qu'il est fort, Ananias, parce que il ne fait pas comme Moïse, des milliers d'années avant lui. Quand Dieu vient voir Moïse, il dit, mais envoie quelqu'un d'autre, mais parle à mon frère, s'il te plaît, mais parle-moi. Vous allez me dire, bon, Moïse, c'était pour affronter Pharaon, c'est peut-être pas tout à fait la même situation, quoique, Saul, à l'époque, c'est pas rien. Un mec qui reçoit des pleins pouvoirs à une ville qui a 250 km pour arrêter des gens là-bas et nous faire venir à Jérusalem. Ananias, il prend le risque, ce jour-là, de peut-être plus jamais voir sa famille, parce que Saul, il est venu avec ça comme mandat. Tu les ramènes à Jérusalem. 250 km. Puis moi, j'ai envie de dire, à la place d'Ananias, quand Dieu lui dit que Saul, dans une vision, a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans sa maison et lui imposer les mains, je dirais à Dieu, mais pourquoi t'as donné mon nom? T'es pas obligé? Débrouille-toi! Non. Ananias, il dit, me voici, Seigneur. Et puis après, il pose une question, et je trouve ça intéressant la question qu'il pose. C'est pas un mal, c'est pas un manque de foi de poser des questions à Dieu. Pour être certain qu'on a bien entendu. C'est important. Elle est judicieuse, la question d'Ananias, elle est légitime. Il n'a pas envie d'aller au casse-pipe. Il pose la question à Dieu, mais Seigneur, est-ce que c'est bien ça? C'est pas forcément un manque de foi de poser des questions à Dieu. Poser toujours des questions à Dieu, oui, ça peut être un manque de foi. Mais juste s'assurer qu'on a bien entendu. C'est pas un manque de foi. Obéir à Dieu, c'est une attitude de cœur, bien sûr, mais c'est une attitude de cœur qui est favorisée par un esprit qui a bien compris les enjeux qui sont dans cette réponse. Alors, il pose la question à la mienne. Est-ce que j'ai bien compris, c'est ça les enjeux? Ok. Mais l'attitude de cœur, elle ne change pas. Et c'est ce que va faire Ananias. Voilà la question qu'il pose. Mais Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. On m'a dit le mal qu'il a fait à Jérusalem. Peut-être c'est même des gens de sa famille, Ananias, qui lui ont dit, écoute, il y a Saul qui vient à Damas. Fais gaffe à ce mec. C'est peut-être sa cousine, c'est peut-être sa tante. Donc il pose la question et Dieu ne lui reproche pas du tout de poser la question. Aucunement, il lui répond simplement, va, j'ai choisi cet homme. Cet homme, je l'ai choisi pour me servir, il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et cette réponse, si Ananias avait voulu argumenter contre Dieu ou avec Dieu, il aurait pu... Ah bon, t'as choisi cet homme, depuis quand on choisit? Pourquoi c'est pas moi que t'as choisi? Et tu veux faire connaître ton nom aux nations étrangères, mais pourquoi j'aimerais ça? Je suis juif? J'ai pas envie que Dieu soit connu partout? Non. Il a posé une question pour savoir s'il avait bien entendu. Dieu lui répondre. Il obéit. Alors il y va. Il arrive devant la maison. Vous avez vu combien, quelle précision quand même la parole de Dieu à ce moment-là. Tu vas dans la rue qui s'appelle la droite. Tu t'arrêtes devant la maison de Judas. Tu rentres. Il y aura un homme qui s'appelle Saul. Et... c'est incroyable. Et il arrive, il voit Saul. Il entre. Il lui impose les mains. Il parle à Saul et lui dit, Saul, mon frère. Ça m'émeut incroyablement cette phrase. Saul, mon frère. Il continue en disant, le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Saul, mon frère. Il faut avoir compris pas mal de choses hein, pour pouvoir dire à ce moment-là, Saul, mon frère. faut pas seulement avoir compris dans la tête l'implication de la grâce, mais dans le cœur. Il faut avoir compris quelque chose du pardon, il faut avoir compris quelque chose de la seconde chance que Dieu offre à l'être humain, ou la millième chance. Il a compris, Ananias, que Dieu fait grâce à Saul, alors qu'il mérite vraiment le contraire. Et seulement, pas seulement il va la comprendre, mais il va incarner cette grâce-là. Parce que quand Ananias voit Saul aveugle, il lui dit pas, tu sais quoi, tu vas payer ton gars. En plus, ce sera facile, t'es aveugle. Je vais me venger. Hein? Saul, mon frère. Il faut avoir compris la grâce, et puis il faut être capable de se réjouir qu'elle soit donnée à ceux qui méritent encore tellement moins que moi la grâce. Même ceux qui méritent le contraire. Parce que j'ai envie de dire, comprendre la grâce, pour nous, ça va encore. Des fois, déjà, on a de la peine. Mais comprendre la grâce, pour nous, ça va. L'accepter. Accepter qu'on ne la mérite pas vraiment, mais qu'on la reçoive. On est juste, on dit juste à Seigneur, mais gloire à ton nom. Mais accepter que ceux qui la méritent encore tellement moins que moi la reçoivent tout autant, ça provoque des mécontentements dans mon cœur. Quand tu t'es donné beaucoup, beaucoup de peine pour avoir 4,7 de moyenne générale, hein, ça fait des années en allemand, vocabulaire allemand, et t'as pas 4,7. Et ce jour-là, un prof super sympa dit, voilà, tu sais quoi, toute la classe, 5,4. Non, 5,7. Toi, t'es content pour toi. Mais il y a ton copain qui avait 2,3. Il dit, bah, j'espère que lui, il a un peu moins de 5,7 quand même. Parce que je savais qu'il bossait pas son vocabulaire allemand. Il m'a dit, j'espère. Non, la même note que moi. Hein. Recevoir la grâce pour nous, ça fait plaisir, mais tout d'un coup, que quelqu'un qui la mérite tellement moins et tellement le contraire la reçoive aussi. C'est pour ça que Ananias peut dire ce jour-là, Saul, mon frère, il comprend la grâce pour son ennemi. Il l'espère pour son ennemi. Il la désire pour lui, et j'ai envie de dire même, il l'incarne pour lui. Ananias, il incarne pour Saul la grâce. Cette grâce que Paul va tellement bien expliquer dans la lettre aux Romains, dans la lettre aux Corinthiens, cette grâce. C'est éblouissant comment Paul comprend la grâce. Ben moi, j'ose imaginer que chaque fois qu'il pensait à la grâce, le premier visage qui lui venait, c'était Ananias. Sois mon frère. Parce que Ananias va incarner pour Saul cette grâce dont il avait tellement besoin ce jour-là. Ananias, pour Paul, c'est le premier visage de la grâce. Sois mon frère. Je pense qu'il faut aussi que Ananias a dû comprendre quelque chose de la communauté, de la fraternité, de la famille. Ce saut de mon frère, c'est presque une invitation dans la famille. On dit, mais viens, entre, viens manger avec nous. T'en as tellement besoin. Je vais terminer avec l'attitude d'Ananias. Une attitude qui va plus loin que ce que Dieu lui demande. Écoutez bien, verset 12, Dieu lui demande d'aller voir Saul et de lui imposer des mains pour lui rendre la vue. Verset 17, Ananias y va. Et il dit à Saul, Dieu m'a envoyé pour que ta vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et Dieu ne lui aurait pas demandé ça. Et Ananias, il va encore plus loin. Il va au-delà de ce qui était demandé. C'est pas une obéissance de Dieu. Ok, ça, c'est fait. Je suis allé dans la rue droite. Je suis arrêté dans la maison de Judas. J'ai posé ma main à Paul et il a dit, ok, tout bon. Non? Poussé par la compassion de ce qui est en train de se passer là, poussé par ce moment exceptionnel de sa vie où Dieu l'appelle, lui dit clairement ce qu'il doit faire, il y va, poussé par la compassion et par ce que Dieu est en train de faire, il va plus loin que ce que Dieu lui demande. Et il prie pour que le Saint-Esprit remplisse Paul. Et c'est ce qu'il y a. Et tout d'un coup, Saul retrouve la vue, il va devenir Paul. Et le texte nous dit que Saul va être baptisé. Je ne sais pas si c'est Ananias qui le fait, mais c'est bien probable. Ananias, c'est le mec qui baptise Paul. Ananias, c'est un certain disciple. Je crois que pour moi, et j'espère pour toi aussi, pour nous, cette histoire d'Ananias, elle peut aussi marquer comme une leçon de vie pour nous aujourd'hui. Elle nous rappelle que l'important, c'est pas d'être partout. L'important, c'est pas d'être nombreux. L'important, c'est d'être là où Dieu nous demande d'être, même si on est un petit groupe. Elle me rassure aussi, cette histoire, parce que elle me rappelle que pour comprendre la volonté de Dieu, j'ai le droit de poser des questions et d'avoir une intelligence qui s'éclaire. j'ai le droit de comprendre ce que Dieu me demande de faire. Elle va m'encourager aussi parce que elle m'encourage à être l'incarnation de la grâce pour ceux qui sont encore mes ennemis, ceux avec qui j'ai vraiment de la peine. Elle nous défie aussi parce que pour que Ananias il a un cœur humble et servant qui désire aller encore plus loin de ce que Dieu lui demande de faire. Encore non, pas plus. Il est poussé par un désir ardent d'incarner l'amour de Dieu dans la vie de ceux qui l'entourent. Et j'espère que pour vous, cette campagne de l'amour pour aimer soit quelque chose qui vous aide, un outil tout simple, à incarner la grâce pour quelqu'un. Vous verrez, chaque jour, il y a un petit défi, et puis il y a la possibilité de prier pour la personne que Dieu vous a mis à cœur. Prenez-en pas 15, juste un. Incarnez la grâce pour celui qui mérite exactement le contraire. C'est ce qu'a fait Ananias. Ça a changé, j'ai envie de dire, le cours d'humanité. Alors vraiment, mon cœur, c'est que cet outil qui vaut ce qu'il vaut, mais soit utilisé dans les mains de Dieu pour que ensemble, en tant qu'un élu salut, là où vous êtes, vous soyez revivifiés dans votre appel, que vous dites, non mais c'est juste Dieu nous a appelés là, on a notre place, c'est juste. Et puis si vous vous posez la question, est-ce que c'est juste, ben, prenez le temps en église, dites Seigneur, c'est quoi maintenant, qu'est-ce que tu veux pour nous? Dire à Dieu, Seigneur, on vient t'écouter, on vient te dire, me voici Seigneur. Alors je voudrais juste prier pour vous. Saint-Esprit, merci parce que les forces, c'est toi qui les donnes. Le renouvellement, l'encouragement, l'exhortation, elle vient de toi. C'est ton esprit qui donne à nos cœurs cette capacité d'être en lien avec la source de ce monde. Avec ta vie, avec ton amour, avec ta grâce. Seigneur, sans toi, on peut rien faire. Sans ce lien en toi, spirituel, on est mort. Mais en toi, il y a des choses qui peuvent se vivre. Et Seigneur, j'invoque ta grâce, ta bénédiction aussi, ton renouvellement. Je te demande un renouvellement des forces pour chacun des responsables de poste de l'armée du salut, si en suisse moi. Seigneur, renouvelle les visions, renouvelle la concentration aussi de ce que toi tu veux. Donne-leur la force d'arrêter de faire ce qui leur prend trop de temps. Trouver ce qui est juste dans ta stratégie à toi pour ce moment, pour maintenant. Seigneur, merci pour la place que tu as donnée à l'armée du salut ici, en Suisse romande. Cette place que tu as donnée à personne d'autre et que tu renouvelles. Seigneur, je te demande que là, il y ait vraiment cette joie d'être qui ils sont. Cette joie de ressentir encore l'appel de Dieu dans ce soin à la personne, à un soin holistique, la santé, mais aussi le moral, le psychique, la vie spirituelle. Seigneur, donne-leur vraiment ce que tu avais et ce que tu as pour la vie du salut maintenant. Et je te demande que tu leur donnes aussi l'autorité et la capacité de pouvoir redire ça. Seigneur, je te prie vraiment que tu bénisses tout ce mouvement, que tu les renouvelles, que tu les renforces, que tu leur donnes de la joie, que tu leur donnes des jeunes, que tu leur donnes des aînés qui ont la foi. Seigneur, viens vraiment souffler par l'action de qui tu es. Toi, le Dieu créateur, toi, le Dieu trois fois saint, toi, le Dieu qui dure l'éternité en éternité. Tu donnes et tu renouvelles chacun. Seigneur, je te prie pour le renouvellement des forces spirituelles, le discernement des esprits. Je te prie pour que tu donnes aussi le discernement des temps, dans quel temps on vit et qu'est-ce que tu nous appelles à faire. Et je te prie pour que tu parles de manière claire, que ce soit facile de discerner. Et je te demande que tu nous donnes à chacun un cœur d'Ananias. Je te dis, me voici. Oh, Jésus, tu marches devant moi. Le monde en le chemin, prends-moi dans la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, puissant sur nous, comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour. Que l'Éternel te bénisse et te guérisse. Qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il te donne la paix, qu'il tourne le visage vers toi, t'accorde sa grâce.